au sujet de du buisson ardent. Il n'y a qu'un buisson ardent, n'est-ce pas? Il n'y en a eu que celui de qu'a vu Moïse. Et y en a-t-il vraiment qu'un? Réponse à ça, ben évidemment, il n'y a qu'un buisson ardent. Mais on peut en faire des boutures, on peut le transporter à d'autres endroits. Ici, au chevet de l'église, il y a une bouture du buisson ardent. Il y en a plusieurs dans le monde. Mais j'avais mal compris la question. Et des buissons, oui, mais à ce moment-là, sont-ils ardents? On l'appelle le buisson ardent parce que historiquement, c'est celui-là c'est la souche de celui-là qui a été, qui brûlait sans se consumer au pied du Sinaï. Mais depuis que Moïse l'a vu, il n'est plus ardent. On l'appelle encore comme ça, mais il a repris, si je puis dire, sa forme normale. Et évidemment, les rejetons qui peuvent pousser à droite et à gauche ne brûle pas et ne se consume pas. Et puis si vous le mettez dans le feu, ça va se consumer, évidemment. Il va disparaître en cendres, en lumière et en cendres. Mais la question est fort intéressante parce que elle évoque la méthode de lecture des saintes écritures chrétiennes, évidemment. Juive et chrétienne. Et c'est à partir de cette méthode de lecture que on a toujours, que les sages ou les saints ont tout, et les théologiens ont toujours compris la signification des écritures. C'est-à-dire qu'à travers des événements historiques ou des personnes historiques dont on s'est raconté de bouche à oreille sur des centaines et des centaines, des milliers d'années même, et on a raconté les histoires, en les enjolivant, en les systématisant, en supprimant des détails, en augmentant d'autres, non? Et ça fait un mode d'écriture particulier, mais tous ceux qui sont intervenus dans les récits, dans leurs interprétations, dans leurs analyses, et qu'ils l'ont traduit en écriture au long des générations qui méditaient sur ces événements-là, l'Esprit Saint, parce qu'ils étaient, c'était des sages et des saints, l'Esprit Saint les inspirait et leur faisait comprendre les écritures d'une certaine manière, ou les écritures, ou les récits oraux avant que les écritures n'existent. Et c'est comme ça que on lit d'une manière sainte les saintes écritures, en y voyant le doigt de Dieu, en y voyant l'inspiration de l'Esprit Saint, et pas simplement en voyant une histoire rationnelle, purement historique. Par rapport au buisson ardent, Moïse a vu effectivement, a eu cette expérience qui a attiré son regard d'un buisson qui brûlait sans se consumer. Ça a attiré son attention. Et en se rendant là, il a une expérience qu'on peut appeler une expérience mystique, une expérience spirituelle. Il a compris qu'il se passait quelque chose d'insolite. Et là, il a entendu une voix qui lui a dit: déchausse-toi, car ce lieu-là est sacré, etc. Et c'est une voix de l'ange. Et il a pris cet événement extraordinaire qu'il a gardé dans son cœur et il l'a médité. Et il l'a transmis à tous ses successeurs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a compris que le buisson qui ne se consumait pas, c'était l'alliance de deux phénomènes, de deux choses. Un buisson, donc du bois, des feuilles, de la sève, des fleurs, des graines, je ne sais pas quoi encore, des épines certainement. Ça d'une part, qui était une chose purement matérielle, il y avait quelque chose qui était plus immatériel. C'était de la lumière ou du feu. Et le buisson et le feu étaient complètement unis l'un et l'autre. mais pourtant l'un ne détruisait pas l'autre. Et on a compris, Moïse a pu percevoir que c'était la prophétie, en langage plus savant, on dit c'était la figure. C'était la prophétie d'un événement qui arriverait plus tard et dont on a connu la plénitude, dont on a connu la signification avec la venue du Christ. Et la venue du Christ montrait l'alliance de deux natures, comme la nature du bois, du buisson et du feu, en un seul phénomène. On a vu, avec la venue du Christ, deux natures s'unir, la nature divine et la nature humaine. Une seule personne divine, le Fils, celui qu'on appelle le Fils, le Verbe de Dieu, qui s'est incarné, qui a pris une chair humaine, qui a pris la chair humaine, et l'humanité, comme ça, et la divinité, ont été complètement unis en une seule personne, aucune des deux natures ne soit détruite par l'autre. Donc, le phénomène du buisson ardent, c'était la figure, la prophétie, la figure de quelque chose d'autre qui devait venir plus tard. Et vous avez fait remarquer, justement, qu'il y a un autre domaine, et toutes les écritures sont comme ça. Tout. Et un autre exemple que vous avez soulevé, c'est celui de l'arche. En privé, je vais montrer la ressemblance et la différence qu'il y a entre l'arche de Noé et l'arche d'Alliance. C'est pas le sujet sur lequel je vais insister tout de suite. Mais j'aurais parlé de l'arche d'Alliance, le coffre de l'Alliance, sur lequel il y avait deux chérubins. Et qui montrait la présence de Dieu sur le propitiatoire qui était sur l'arche d'alliance. Et ça, c'était encore une figure. C'était réellement le lieu de la présence de Dieu, le lieu de l'aspect visible, la nuée lumineuse se reposait. Les chérubins, les deux chérubins en or, montrer la gloire du Dieu invisible. Mais ça, c'est encore une figure, c'était encore une prophétie. Parce que plus tard, toujours avec le Christ, la figure se réalise, les figures se réalisent avec le Christ. Avec le Christ, on voit, vous savez comment il est mort, comment il a été mis dans le tombeau, et comment le troisième jour, il est ressuscité. Et lorsque l'on est venu au tombeau, on a vu sur la table du tombeau, sur la pierre du tombeau, on a vu deux anges, tout blanc, tout lumineux. Eh bien, la présence de ces deux anges montre la réalisation de la figure, donc de la prophétie de l'Ancien Testament de l'arche, c'est-à-dire que le tombeau du Christ, ou plus exactement le Christ lui-même, évidemment, et l'arche véritable que l'arche de l'Ancien Testament ne faisait que de préfigurer, ne faisait que d'annoncer. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire l'Ancien Testament comme une prophétie, comme une figure de ce qui doit arriver. Et c'est avec ce qui est arrivé, c'est-à-dire la réalisation de ces figures, c'est-à-dire avec le Christ et tout ce qui s'ensuit. C'est ça qui nous fait comprendre la signification profonde des Écritures. Et pour faire cela, pour accomplir ça, il faut évidemment être inspiré de l'Esprit Saint, non pas pour découvrir des choses nouvelles et inventer des trucs, mais pour être vraiment dans la tradition, dans la tradition globale des Écritures, depuis l'Ancien Testament où on les interprète comme ça, jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre manière de comprendre les saintes Écritures. Et j'extrapole un petit peu pour en arriver à ce que je voulais vous dire préalablement au sujet de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. L'évangile est simple. Jésus arrive à Jéricho. Il y a un petit bonhomme, c'est-à-dire pas très haut de taille, qui doit être honnête, mais collecteur d'impôts, il doit prendre son bénéfice à lui aussi de son côté. D'ailleurs, il l'avoue après. Cependant, curieux de voir les foules qui suivent ce rabbi là, Jésus qui déambule un peu partout, lui aussi veut voir, et il monte sur un sycomore, c'est-à-dire sur un arbre, et il voit Jésus, et Jésus passant à côté le voit et lui dit qu'il veut venir manger ce midi chez lui. Et à ce moment-là, vous imaginez comment il a dû descendre 4 à 4 de son sycomore pour aller préparer le repas pour le Seigneur. Et une fois qu'ils ont été à table, il dit: Seigneur, tout le mal que j'avais fait, tout ce que j'avais volé, eh ben, je le rends en 4 fois plus. C'est-à-dire, c'est toute une conversion. C'est simple. On peut comprendre ce passage de l'évangile comme la manifestation d'une conversion personnelle de quelqu'un qui, voyant le Christ, sur lequel repose l'Esprit Saint, qu'il ne voit pas, mais dont il est complètement investi, évidemment, et qui se dirige, qui est toujours en communion aussi avec son Père, on peut comprendre que la nature, même les mauvais, si on peut dire, puissent se convertir, c'est peut-être, on peut le considérer aussi comme un des miracles qu'a fait le Christ parmi une multitude d'autres. Ça, c'est juste de le comprendre comme ça. Mais si on comprend aussi ce récit de l'Évangile à la manière dont on comprend les figures de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, si on garde cette tradition d'interprétation des Écritures, on sait que la manière dont Saint Luc ici a écrit son Évangile n'est pas fortuit. Il l'a écrit de telle manière à faire comprendre aux générations qui suivraient, dont la nôtre, des aspects de la réalité de ce que le Seigneur est venu accomplir. Est-ce que Saint Luc en avait conscience ou n'en avait-il pas conscience? Je ne sais pas. Il avait compris beaucoup de choses, certainement, parce que le Seigneur, pendant 3 ans, l'avait, avec les autres apôtres, éduqué sur la signification des Écritures, sur la signification de sa place, de sa venue, de son incarnation et de sa mission sur terre. Il avait entrouvert des visions sur ce qu'allait devenir le monde et de la conversion, le salut du monde. Mais aussi, Saint Luc étant inspiré de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne lui a pas tenu la main pour lui faire écrire un texte que lui aurait fait comme en écriture automatique, c'est-à-dire sans regarder ce qu'il écrivait. Et tout ça, c'est pas l'Esprit Saint qui a écrit à travers la main de Saint Luc. Mais Saint Luc, se convertissant, étant proche du Seigneur, recevait l'Esprit Saint aussi, et ensemble, les deux natures, la nature de Luc et la nature de l'Esprit Saint, ensemble, on crée quelque chose qu'on appelle son évangile. Et dans cet évangile, comme dans tous les évangiles, il y a des aspects qui sont pas directement historiques, mais qui, à travers les termes qui sont choisis, à travers l'ordonnance des mots, à travers les correspondances entre des membres de phrases. Ça, c'est toute une étude que l'on peut faire, que je vais pas vous faire tout de suite, mais tout ça révèle des prémonitions, révèle une manière que les apôtres avaient de comprendre ce qui se passait sous leurs yeux. Et à travers un événement historique, comme l'élévation de Zachée sur le sycomore et sa descente et sa conversion quand le Christ passait à Jéricho, à travers cet événement-là, il y a autre chose qui nous est révélée. Et je vais vous donner quelques exemples, enfin un exemple sous plusieurs faces pour vous montrer pour vous montrer non seulement ce que peut comprendre de cet évangile, mais comment il faut apprendre à lire. Et là, c'est pas pratique, c'est pas facile à dire d'une manière un peu systématique. La première chose, c'est qu'on voit, la première chose que je dois vous dire, c'est pas la première chose que l'on voit, la première chose que je veux vous dire, c'est que, comme vous avez entendu, Saint-Luc monte, Zachée monte sur un sycomore. Or, quand on regarde la signification du mot sycomore, c'est un sycomore, c'est un figuier franc, c'est-à-dire un figuier qui n'a pas été taillé, qui n'a pas été greffé. Autrement dit, un figuier sauvage. Et vous savez que les arbres fruitiers sauvages qui n'ont pas été greffés donnent des petits fruits qui souvent sont pas aussi goûtus que des fruitiers greffés. Et c'est le cas, c'est la différence qu'il y a entre le figuier et le sycomore. Tous les deux donnent le même genre de fruits, mais le sycomore donne des fruits pas mauvais mais petits, hein, alors que le figuier greffé lui donne des gros fruits bien très très doux, très très sucrés. Mais nous savons aussi, et les sœurs le savent par expérience, que si les fruits du figuier sont particulièrement doux, les feuilles, elles, sont agressives. Les feuilles sont urticantes. Quand on va cueillir les figues, on a les bras qui démangent, qui grattent. Ce qui veut dire que le figuier ou le sycomore a deux aspects, un aspect doux et un aspect agressif, un aspect mauvais, un aspect positif et un aspect négatif. Or, faut faire un saut dans le temps. Si vous vous souvenez, au moment dans la Genèse, quand l'homme et la femme ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Je ne parle pas aujourd'hui de la signification de la dignité de l'un et de l'autre. Mais comme c'est raconté dans la Genèse, et ils ont été couverts, et ils se sont couverts de feuilles de figuier, de pagnes, en feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Vous comprenez bien que s'ils se sont couverts de feuilles de figuier, c'est donc qu'il y avait au moins un figuier dans le paradis. Et les feuilles de figuier, et on dit, une tradition ou des traditions disent que le figuier dans le paradis était certainement cet arbre qui était beau à voir, mais que Dieu avait demandé qu'on ne mange pas, l'arbre interdit, et il était beau. En voyant les belles figues, on comprend que Ève est craquée, puis qu'elle a fait craquer Adam, parce que personne n'a jamais dit, il n'est jamais écrit dans les Écritures que c'était une pomme. Hein. L'histoire d'une pomme, c'est une manière dont les peintres du XVIIe siècle ont représenté la chose. Mais rien. Par contre, le seul arbre dont qu'on sache qui était dans le paradis, c'était le figuier, à cause de ses feuilles. Donc, on comprend que c'est pu être l'arbre de la tentation. Mais on comprend aussi que ils ont couvert leur nudité avec les feuilles du figuier, ça a dû un peu les gratter aux entournures. Je veux dire par là que le fait de porter ces feuilles, ça leur rappelait l'amertume de leur péché. C'est une douleur qui leur montrait, qui leur rappelait comment ils étaient séparés de Dieu. Et depuis ce temps-là, le figuier a été le synonyme de l'arbre interdit, mais en même temps le symbole du péché. parce que c'est l'arbre au fruit duquel Adam et Ève ont goûté, et dont ils seront revêtus des feuilles, ce qui leur a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant reprenons, maintenant j'ai rappelé ça, prenons l'autre bout de l'histoire. Vous vous souvenez que au début de l'évangile, le Seigneur rencontre Nathanaël. Nathanaël demande au Christ, mais Seigneur, d'où me connais-tu? Et le Christ répond à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. De quel figuier il s'agit? Probablement, historiquement, probablement qu'effectivement, Nathanaël était un de ces curieux qui était aussi, qui regardait les apôtres qui suivaient le Christ, et il devait être sous un figuier, et de loin il a vu le Christ parce qu'il devait regarder, il devait le chercher en quelque sorte. Mais si le Seigneur lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, il voulait dire quelque chose d'autre, c'est pas simplement pour l'interpeller en disant, ouais, tu te planquais tout à l'heure, mais moi je t'avais bien vu. C'est certainement plus subtil que ça. D'autant plus subtil, ça doit être d'autant plus subtil que lorsque dans l'évangile de Saint Matthieu, on voit que le Christ a faim avec ses disciples et de loin, il voit un figuier et il s'approche près de ce figuier pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des fruits à manger. Pas de chance, il n'y avait pas de fruits. Et le Seigneur parle au figuier, ce qui est quand même insolite, généralement on parle pas aux arbres, enfin bon. Et puis il dit, plus jamais de toi qu'il ne vienne de fruits pour l'éternité. Le pour l'éternité est une insistance qui montre que vraiment, c'est pas une simple vengeance. D'ailleurs, je ne pense pas que le Christ puisse se venger. Mais c'est pas une simple vengeance, c'est pas une simple punition qui donne à un arbre qui n'a pas de fruits. Et pour l'éternité, le pauvre arbre, de toute manière, il vivra pas l'éternité. Donc, et puis l'histoire montre qu'il y a d'autres figuiers, c'est pas tous les figuiers qu'il a maudits, puisque les autres figuiers, ils continuent à nous donner des fruits, sinon, on ferait pas de confiture ici. Encore dans un autre passage, un peu chez un autre évangéliste, chez Saint Marc, le Seigneur encore voit de loin un figuier, il s'approche de lui, et il ne voit qu'il y a que des feuilles. Il n'y a pas de fruits. Il vient à tout hasard pour voir s'il trouvait quelque chose. Et en venant sur lui, il ne trouve rien que des feuilles, car ce n'est pas le temps des figues. Et le Seigneur lui dit encore que plus jamais pour l'éternité, nul ne mange du fruit de toi, du fruit de cet arbre-là. Vous voyez la même insistance, c'est pour l'éternité, que personne pour l'éternité ne mange de ce fruit. C'est un peu curieux. Et en plus, le Seigneur maudit ce pauvre figuier, et l'évangéliste dit, mais de toute manière, c'était pas l'époque des figues. Donc le Seigneur savait bien qu'il n'allait pas trouver de figues sur cet arbre-là. Et malgré tout, il le maudit pour qu'il ne porte pas de fruits. Vous comprenez que ce thème du figuier montre qu'il y a quelque chose d'insolite, quelque chose qui n'est pas une histoire simplement anecdotique, pas simplement un événement historique. Mais on ne peut comprendre ces interventions du Christ que si on se souvient du figuier qui a servi à faire des pagnes à Adam et Ève pour cacher leur nudité. Comme le figuier signe, en quelque sorte, signe ou témoin du péché d'Adam et Ève et de tous ceux qui ont suivi, évidemment. Et dans ce cas-là, on comprend ces passages du Nouveau Testament d'une manière différente. Nathanaël est caché là-bas et cherche le Christ. Seigneur, d'où me connais-tu? Quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Comment faut comprendre ça? Il faut comprendre à ce moment-là, quand tu étais encore sous le domaine du péché, sous la possession du péché, couvert par le figuier, couvert des feuilles du figuier, en quelque sorte, témoignage du péché, quand tu étais encore dans cet état de pécheur, à ce moment-là, je t'ai vu. Et on comprend à ce moment-là que après, quand saint Matthieu, quand saint Matthieu rappelle l'événement du Christ, qu'il voit, un figuier, il vient chercher des figues, n'en trouve pas, et le maudit et le dessèche, en lui disant que plus jamais, pour l'éternité, il y a le fruit, hein, ça veut dire que le Seigneur maudit non pas le pauvre arbre qui n'y est pour rien, mais maudit le symbole que représente cet arbre-là, c'est-à-dire le péché, et le Christ sait que lui qui s'achemine vers sa passion, sa mort et sa résurrection, il sait que lui vient faire se dessécher le péché ou les sources du péché, c'est-à-dire symboliquement le figuier. Et quand saint Marc après insiste encore là-dessus sur le même phénomène en disant il ne pouvait pas y avoir de figue puisque ce n'était pas l'époque des fruits, malgré tout le Seigneur maudit le figuier, et il donne insistance pour montrer que c'est pas le figuier lui-même, mais c'est le péché et ses conséquences, et qu'effectivement, que plus jamais, pour l'éternité, personne ne mange plus du fruit du figuier, c'est-à-dire du fruit du fruit du péché. Vous comprenez un peu? Revenons à Zachée maintenant. Zachée, maintenant que nous savons ça sur le figuier, Zachée, il s'élève, lui, il monte, il grimpe, un figuier sauvage, un figuier non greffé. Alors c'est encore pire, il n'y a même pas de bons fruits là-dedans. Ce qui est une insistance encore plus grande sur la stérilité que représente le péché dans lequel l'humanité est. Et Zachée, il est petit, pas simplement de taille, je l'appelais le petit bonhomme tout à l'heure, pour vous faire sourire et pour vous faire comprendre la scène, mais c'est pas simplement qu'il était petit de taille, mais dans son cœur, il se sentait petit à côté du géant qu'est Dieu incarné en Christ. Et cette petitesse-là, la petitesse d'un homme pécheur, comme nous sommes tous petits, c'est le témoignage de notre péché. Et non seulement le Zachée n'est pas simplement couvert d'un pagne, mais il est complètement enfoui dans les branches et dans les feuilles de ce sycomore. Et là, il s'élève, il monte, il grimpe à l'arbre de branche en branche pour pouvoir dépasser la hauteur de la foule qui l'empêche de voir le Christ, et il le voit. Ceci montre que une forme de, non seulement de curiosité, si vous voulez, il cherche à voir, il scrute, mais qui sait ce rabbi qui passe? C'est pas qu'ils veulent voir quelle couleur est sa natte de ses cheveux, ou la couleur de ses yeux, ou comment il est habillé, la couleur de la frange de son vêtement de prière. C'est pas ça qu'ils cherchent à savoir. Ils cherchent à savoir qui est cette personne dont tout le monde parle et qui fait autant de miracles. Et là, il s'élève avec la force de ses muscles, ou autrement dit, avec la force de sa contemplation intérieure, de sa réflexion, de son intelligence, il s'élève au-dessus de sa condition, au-dessus de la condition commune, pour essayer de comprendre et de voir qui est le Christ. Et à ce moment-là, le Christ le voit, et le Christ intervient, il vient, à défaut de venir pour l'instant dans son cœur, et lui, ce soir même, je veux venir manger chez toi. Et cette irruption du Christ dans la vie de Zachée crée immédiatement la conversion de cet homme qui, de mauvais qu'il était, de pécheur qu'il était, décide de changer de vie et de donner, de multiplier par 4 les dons qu'il allait faire par rapport à ce qu'il avait pris aux autres. C'est une manifestation de sa conversion. Et ceci montre non seulement l'histoire d'un homme qui est Zachée, mais c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de notre humanité, nous les hommes, qui sommes couverts par les conséquences de notre péché et grattés, souffrants par nos tentations, par nos maladies, toutes nos formes de souffrance et notre mort, qui souffrons des conséquences du péché, donc qui sommes dans ce sycomore, nous nous élevons, nous pouvons nous élever petit à petit de branche en branche pour commencer une ascension, ascension qui nous mène petit à petit au royaume des cieux à travers le Christ. Et pour nous aussi, ça a pour conséquence de susciter en nous une conversion qui nous fait changer de vie, qui nous fait agir avec charité, de donner aux autres, mais simplement, pas simplement donner des biens, mais se donner soi-même, sortir de soi-même et changer petit à petit, abandonner ce que l'on est, abandonnant notre volonté propre, autrement dit, pour devenir un avec le Christ, pour lui ressembler de plus en plus. Donc c'est un évangile qui nous montre cet effort de l'homme pour sa conversion, pour s'élever au-dessus de sa condition, aidé par la présence du Christ qui nous invite et qui entre en nous et effectivement nous fait changer. Et c'est la raison pour laquelle cet évangile-là est lu en prémisse de la période liturgique qui va suivre, puisque maintenant nous allons peu à peu entrer dans le mystère du carême, qui est le carême, c'est d'une certaine manière la symbolisation, si je puis dire, pour prendre d'une manière un peu légère une image, c'est un petit peu les ascèses différentes que l'on va exercer pendant le carême, mais aussi pendant toute nos vies, sont comme les branches successives, si vous voulez, de ce sycomore sur lequel on va s'élever par notre force et aspirer, aider, attirer par la présence du Christ que l'on ne voit pas, mais qui passe parmi nous, de manière à essayer de nous élever au-dessus de notre condition et de nous amener vers lui pour le voir et le connaître et donc finalement pour le suivre. Vous voyez comment on peut comprendre le but est de comprendre de voir où veut nous amener l'évangile, pas simplement nous amener à la connaissance d'un miracle, la conversion de Zachée, mais montrer comment ceci, ça nous implique, c'est notre propre histoire, l'histoire de l'humanité et l'histoire de chacun de nous à notre manière, qui assumons, qui personnalisons cette histoire de l'humanité, et comment tout ça est à comprendre à travers l'histoire des Saintes Écritures qui nous montrait effectivement ce que c'est que le figuier et le sycomore. Si on ignore, ce qui est normal parce que c'est à apprendre, mais si on ignore définitivement la signification du figuier dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on ne peut pas comprendre l'histoire véritable de Zachée. On comprend simplement ça comme un miracle. Et s'il faut vraiment que le Christ passe, s'il faut vraiment se physiquement grimper dans un figuier pour voir le Christ passer, on le voit généralement pas passer au milieu de nous, corporellement tout du moins, et des figuiers, il n'y en a pas partout. Puis nos figuiers, nous, ils sont tellement en rachetoc que si on monte sur une branche, on va rester au niveau des pâquerettes. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de conversion pour nous. Vous comprenez bien que ça, à travers cette image-là, ça veut dire autre chose de beaucoup plus profond, évidemment.